Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une chronique vraiment intéressante de Radio Tam Tam Africa. Elle s'intitule « Afrique debout et libre ». Et elle décrit un mouvement qui va, mais alors, totalement à contre-courant de l'idée qu'on se fait du succès depuis des décennies.
Oui, le schéma classique qu'on a tous en tête.
Exactement. Quitter son village, ses terres, pour tenter sa chance en ville. C'était ça le progrès.
C'était l'horizon, en quelque sorte.
Eh bien, cet article raconte l'histoire d'une nouvelle génération, et souvent une génération diplômée, qui fait précisément le chemin inverse. Un retour volontaire, réfléchi à la Terre. Notre mission aujourd'hui, ça va être de comprendre ce qui motive ce virage à 180 degrés, et surtout ce que ça révèle de plus profond sur les aspirations d'une partie de la jeunesse africaine.
Oui, et il faut tout de suite, je pense, mettre une idée de côté.
Laquelle ?
Ce n'est pas juste une mode. Pas une sorte de retour à la nature un peu romantique, ce que ce texte documente, c'est bien plus puissant.
On est au-delà de l'anecdote.
Carrément. On parle de la faillite d'un mobile, de l'épuisement de ce rêve urbain qui a, disons, servi de boussole pendant près d'un demi-siècle. On va voir que derrière ces parcours individuels, ben, y a des enjeux économiques, sociaux et même politiques.
Politique, carrément. Oui, ça touche au cœur de la notion de souveraineté. Au fond, cette histoire, elle pose une question toute simple. Ça veut dire quoi, réussir, aujourd'hui sur le continent? Et la réponse est en train de changer de façon radicale. Alors, pour comprendre ce retour, il faut d'abord comprendre le point de départ. Pourquoi est-ce que ces jeunes, pour qui la ville était censée être l'horizon, décident de la quitter? L'article parle sans détour d'une réalité brutale.
C'est ça, c'est le miroir aux alouettes qui s'est brisé. Le texte décrit un quotidien qui est devenu insoutenable pour beaucoup.
C'est-à-dire ?
Des loyers qui flambent, qui peuvent absorber plus de la moitié d'un salaire.
La moitié, c'est énorme.
Énorme. Et à côté de ça, des emplois précaires, même avec un diplôme en poche, et puis une concurrence féroce pour le moindre poste. L'idée que le diplôme est un passeport automatique pour une vie confortable, ça s'est évaporé.
Donc la promesse n'est plus tenue.
Plus du tout. La ville, qui promettait l'émancipation, est devenue pour beaucoup une machine à créer de la précarité.
Attendez, il y a un détail dans l'analyse qui m'a vraiment interpellé. On y lit que le coût de la vie dans beaucoup de capitales africaines est maintenant comparable à celui de grandes villes européennes.
Oui, et c'est le nœud du problème.
Quand on lit ça, on se dit que c'est tout simplement intenable.
Ben voilà, vous avez le coût de la vie de Paris ou de Bruxelles, mais avec des revenus qui n'ont absolument rien à voir.
Donc la promesse est doublement rompue.
Exactement. Non seulement l'emploi stable est difficile à trouver, mais même quand on en trouve un, il ne permet plus de vivre décemment. Et cette prise de conscience, elle n'est plus individuelle.
Elle devient collective.
C'est ça. Ce n'est plus « je n'ai pas réussi », c'est « le système ne fonctionne plus ».
Et c'est ce qui amène à cette question fondamentale qui change tout.
Précisément. Le texte cite cette question que se pose de plus en plus de jeunes et elle est d'une simplicité désarmante.
Qui est ?
Et si la solution n'était pas en ville, mais chez nous ?
Vous voyez, ce n'est plus une question posée par dépit, c'est une hypothèse stratégique.
Une vraie alternative. Oui, et si la vraie opportunité, l'or véritable, ce n'était pas dans le béton des capitales, mais dans la terre qu'on avait délaissée. C'est ça le point de bascule psychologique qui enclenche tout le mouvement.
Et c'est cette question qui nous amène au cœur du sujet. Parce que, et l'article insiste beaucoup là-dessus, ce retour n'est pas une régression. On a l'exemple très concret de Philippe Mongassa, au Sénégal, qui incarne ça parfaitement.
Ah oui, son histoire est très parlante.
C'est un jeune diplômé, il a connu la galère à Dakar.
Il a vu de près, justement, les limites de ce modèle urbain. Il aurait pu s'obstiner, passer des années à chercher sa place dans un système qui est saturé.
Mais il a fait un autre choix.
Il a fait un calcul différent. Il a décidé de retourner dans son village, non pas la tête basse, mais avec un véritable plan d'affaires.
Et c'est là que tout change. L'article explique bien qu'il n'a pas juste repris la ferme de ses parents pour faire comme eux.
Non, pas du tout.
Il a abordé la terre comme un entrepreneur. Il a un plan. Il diversifie ses cultures.
Oui, et la chronique donne des exemples très clairs. Au lieu de faire uniquement de l'arachide pour l'export dont les prix sont fixés par des marchés sur lesquels il n'a aucun contrôle.
Ce qui est le cas classique.
Voilà, lui s'est mis à planter du bissap, très demandé sur les marchés locaux pour faire des jus, et des piments. Mais il ne vend pas juste les piments. Il les fait sécher, il les moue lui-même avant de les vendre.
Ah, donc il transforme le produit.
C'est ça, la création de valeur. Il ne vend plus une matière première brute à bas prix. Il vend un produit transformé, semi-fini, avec une marge bien plus élevée. En fait, il reprend le contrôle de la chaîne de valeur.
Ce que vous décrivez, au fond, c'est un changement complet d'identité. L'image de l'agriculteur, elle en prend un sacré coup. On n'est plus dans le cliché du paysan qui subit la météo.
Non, et ce qui est contre-intuitif, et c'est ce qui ressort bien du texte, c'est que les compétences les plus importantes pour ces nouveaux agriculteurs ne sont peut-être plus liées à la force physique.
Mais à quoi alors?
Aux données. Ils analysent les prix du marché sur leur smartphone, ils suivent des prévisions météo ultra-locales via des applications, ils gèrent leur comptabilité sur des tablettes. Ce sont des entrepreneurs de la tech dont le produit se trouve être l'agriculture.
C'est une excellente image.
L'article oppose très bien l'agriculture subie, celle qu'on hérite et qu'on répète sans innover, à l'agriculture pensée, qui est un projet entrepreneurial à part entière.
On imagine que pour acheter du matériel, des semences de qualité, peut-être même accéder à la terre, il faut des fonds. Comment ils font le saut concrètement?
C'est un point crucial et ils ne sont pas toujours seuls.
Il y a de l'aide.
Oui, la chronique mentionne l'importance croissante des programmes de soutien, qu'ils soient portés par les États, des ONG ou des organisations internationales. Ces programmes agissent comme des facilitateurs.
C'est-à-dire?
Ils peuvent offrir des formations techniques, un accès plus facile au crédit, au matériel agricole moderne, ou même aider à résoudre le vrai casse-tête de l'accès à la terre. En gros, ils créent un écosystème qui permet à ces projets individuels de ne pas mourir dans l'œuf.
Ça sonne presque trop beau pour être vrai. Est-ce que ces programmes sont la clé de tout? On donne de l'argent, du matériel et hop, la magie opère.
Alors, c'est là que l'analyse apporte une nuance essentielle. Et elle est très lucide là-dessus.
Ah!
Elle cite cette phrase qui, pour moi, résume tout. L'aide ne remplace pas la stratégie, elle la soutient.
D'accord, je vois. Le soutien est un outil, pas le projet lui-même.
Voilà. Le moteur, ça reste la vision de l'entrepreneur. L'aide extérieure est un catalyseur, un accélérateur. En fait, le texte suggère même que les programmes les plus efficaces ne sont pas forcément ceux qui donnent le plus d'argent.
Pas bon? Mais alors c'est quoi?
Ce sont ceux qui connectent les jeunes entrepreneurs entre eux, qui créent des réseaux pour qu'ils partagent leurs erreurs, leurs succès. La vraie valeur, souvent, c'est le réseau, pas seulement le chèque.
Ça me semble logique, mais est-ce que l'article ne minimise pas un peu les obstacles, disons structurels? La détermination et un bon réseau, c'est formidable, mais face à un manque d'accès à l'eau pour l'irrigation ou à des routes en mauvais état pour vendre sa production, ça ne suffit pas assez.
C'est une excellente question. Et non, le texte ne l'élude pas, il ne peint pas un tableau idyllique.
Il montre les difficultés.
Oui, il montre que ces pionniers sont souvent obligés de devenir des solutionneurs de problèmes. Ils ne se contentent pas de cultiver, ils vont mettre en place des petits systèmes d'irrigation goutte à goutte, se regrouper en coopérative pour acheter un camion et mutualiser le transport.
Ils créent leurs propres solutions.
Exactement. Ou encore, ils vont créer des points de vente directs pour court-circuiter les intermédiaires. Leur projet agricole devient un projet de développement local à part entière. Ils n'attendent pas que les infrastructures arrivent, ils les créent à leur échelle.
Quand on prend un peu de recul, l'impact de ces initiatives individuelles est en fait colossal. On dépasse largement la simple réussite personnelle.
Absolument. Le premier impact le plus visible, c'est que ça offre une alternative crédible et désirable à la migration.
Que ce soit vers les grandes villes ou, de façon plus dramatique, vers l'Europe. Voilà. Le message qui passe, c'est il est possible de construire un avenir prospère ici, chez soi. Ça change complètement la perspective pour des milliers de jeunes. Et il y a cet effet d'entraînement. L'auteur insiste sur un point qui m'a semblé très fort. Quand un jeune agriculteur embauche d'autres jeunes, il ne change pas seulement sa propre vie, il agit sur toute une communauté.
C'est exactement ça. On passe d'un projet individuel à un impact collectif.
On crée de l'emploi là où il n'y en avait plus, on redynamise des villages qui se vidaient de leurs forces vives. Et si on dézoome encore, on touche à quelque chose d'encore plus fondamental, la souveraineté.
Expliquez-nous.
Pour vraiment saisir la portée de ce changement, il faut faire un petit détour à l'histoire. Pendant des décennies, suite aux logiques coloniales, puis post-coloniales, les politiques agricoles dans beaucoup de pays ont été tournées vers les cultures d'exportation.
Le café, le cacao, le coton.
C'est ça, des produits destinés à être vendus sur le marché mondial.
Et du coup, on s'est retrouvé dans cette situation complètement absurde où des pays avec des terres incroyablement fertiles devaient importer une grande partie de leur alimentation de base.
Le riz, le blé.
Voilà, pour nourrir leur propre population.
Voilà, une dépendance alimentaire totale. Or, ce que fait cette nouvelle génération en se concentrant sur les marchés locaux et régionaux, en diversifiant les cultures vivrières, en transformant les produits sur place, c'est un acte de reconquête.
De reconquête.
Oui, ils reconstruisent, brique par brique, une souveraineté alimentaire qui avait été perdue.
Chaque sac de piment moulu par filier vendu sur le marché de Dakar, plutôt qu'exporté brut, est une petite victoire dans cette reconquête. C'est une révolution silencieuse qui se joue dans les champs.
C'est fascinant de voir comment tout est lié. D'une prise de conscience individuelle face à un loyer trop cher, on arrive à des enjeux de souveraineté nationale. Si on devait résumer le message de cette chronique, ce serait que l'agriculture, qu'on a longtemps associée au passé, à la tradition, pourrait bien être une des clés les plus puissantes de l'avenir. Oui, pour le développement et l'emploi sur le continent. Oui, et le ton de l'article est clairement un appel à l'action. Il se termine sur une interpellation directe à la jeunesse, et les mots sont bien choisis. Il dit « La terre n'est pas une condamnation, elle peut être une opportunité. » Mais il y a une condition. Toujours. Il ajoute immédiatement la condition sine qua non. Il faut l'aborder avec vision, méthode et courage. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une réinvention qui demande plus de matière grise que de force physique. C'est une pensée puissante. On est tellement obsédé par les chiffres, le PIB, les taux de croissance, tous ces indicateurs macroéconomiques. Mais le vrai changement, le changement de fond, c'est peut-être simplement quand l'histoire que les gens se racontent sur ce que veut dire réussir se transforme.
C'est tout à fait ça.
Et c'est exactement ce que cette chronique semble avoir capté.
Absolument. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse le cadre purement économique, une pensée pour la suite.
Allez-y.
La chronique documente très bien le succès économique et social de ce mouvement. Mais la transformation la plus profonde est peut-être culturelle. Si le nouveau modèle de réussite, l'image du succès à laquelle les enfants aspirent, ce n'est plus l'avocat ou l'ingénieur dans sa tour de bureau en ville.
Mais l'agro-entrepreneur respecté dans son village.
Voilà. Comment est-ce que cela va transformer, à long terme, les dynamiques familiales, la relation entre les générations, l'identité des communautés et même la perception de ce qu'est le progrès ? C'est peut-être là que se joue la révolution la plus silencieuse, mais aussi la plus durable.